Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Renaud Pierroux.
Bonjour.
Professeur de parasitologie à Sorbonne Université, chef de service à la Pitié-Salpêtrière et chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Spécialiste reconnu des épidémies, celle du choléra en Haïti, d'Ebola en Afrique. Vous avez été celui qui a sonné l'alarme à la PHP le 13 mars, quelques jours avant le confinement. J'en parle parce que Martin Hirsch le raconte dans son livre, il en a parlé ici même à votre place. Vous le racontez dans le vôtre, la vague, l'épidémie vue du terrain chez CNRS Éditions. Aujourd'hui, revoici notre pays replongé dans l'enfer du Covid avec une mesure de contrainte qui paraissait inimaginable il y a quelques mois. Un confinement partiel, un couvre-feu. Est-ce qu'il fallait en passer par là? Est-ce qu'à vos yeux, c'est la bonne mesure et pour quelle raison?
À mes yeux, c'était pas inimaginable, hein, puisque ça avait déjà eu lieu en Guyane. Et comme j'étais allé voir là-bas et aider l'ARS, c'est quelque chose qui m'a pas surpris.
On va en reparler, mais inimaginable pour beaucoup de Français, c'est
d'accord.
Ça que je voulais dire.
Mais il fallait avoir un peu d'imagination, effectivement. Est-ce que c'était la bonne mesure? En tout cas, c'était une mesure nécessaire. Elle ne couvre pas peut-être la totalité des modalités de transmission, mais elle s'attaque à une modalité, une double modalité de transmission. On parle des bars et des restaurants, mais
oui.
On peut parler aussi des repas pris entre amis le soir,
oui.
À domicile. Donc c'est certainement, pendant les repas, on ne peut pas porter de masque. Quand on est le soir entre amis, on ne porte pas de masque. C'est une contrainte, mais c'est certainement un des moyens qui permettra de limiter la transmission.
Qu'est-ce qui vous fait dire que ces rassemblements festifs et privés sont les principaux, en tout cas des vecteurs importants de transmission du virus, professeur?
Alors, vecteurs importants, les principaux, c'est très compliqué, parce qu'il y a un certain nombre de modes de transmission qu'on n'arrive pas à quantifier. Par exemple, dans le métro, je suis allé une thèse il y a quelques jours à Bichat. Évidemment, tassé comme on est dans le métro, je suis un peu inquiet quand même de la transmission, je ne veux pas le cacher.
Sauf qu'on ne sait pas quels sont les endroits de contamination. On n'a pas de données, on n'a pas d'études.
C'est beaucoup plus facile de repérer une transmission intrafamiliale, puisque les gens savent avec qui ils étaient et peuvent reconstituer beaucoup plus facilement une chaîne de transmission en intrafamilial que de savoir qui était dans la même rame de métro qu'eux.
Oui.
Donc il y a des choses qu'on peut voir et d'autres qu'on ne voit pas aussi bien.
C'est-à-dire qu'on suppose, compte tenu de la flambée des contaminations dans une classe d'âge chez les plus jeunes, les 20-30 ans, on suppose qu'ils se contaminent en priorité dans des soirées, dans des bars et des restaurants qui...
Il y a plus que ça. Il y a quand même eu des études qui montrent que les personnes qui fréquentent les bars, qui ont fréquenté les bars ou des restaurants, avaient un risque relatif plus élevé, 2 fois, 3 fois, 4 fois plus élevé, selon ce qu'on regarde, que les personnes qui n'avaient pas ce facteur de risque. Donc, on va plus que sur des suppositions. Maintenant, c'est sur le poids respectif de ce mode de contamination, son évolution dans le temps, et c'est vrai que ça a certainement été un mode de contamination, si on parle des étudiants, plus important au mois de septembre qu'au mois d'octobre. Mais ce que je veux dire, c'est que la mesure ne vise pas uniquement les étudiants, ou les bars, les cafés et les restaurants, mais aussi les contaminations intrafamiliales ou entre amis lors de repas pris le soir.
C'est-à-dire des moments où les masques ne sont plus portés, se parle face à face, parfois vivement ou à proximité les uns des autres.
Oui, parce qu'il faut commenter l'actualité.
Et pas seulement l'actualité. Vous avez passé la première quinzaine de juillet en Guyane,
oui.
Où le couvre-feu a été mis en place dès le mois de juin, avec des effets spectaculaires, rapides.
Alors, il a commencé le 11 juin, mais il a été très progressif. Ça a commencé à 23h, et puis ça s'est rapproché. Quand j'y étais début juillet, c'était à 17h.
Ah oui, donc avant là, même la tombée de la nuit.
Là, c'est violent quand même, effectivement, dans la mesure où ça oblige tout le monde à rentrer chez soi dès le travail terminé. Les horaires ne sont pas les mêmes en Guyane. On travaille plus tôt le matin, on finit un peu plus tôt dans l'après-midi. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement compliqué, surtout quand on arrive dans un endroit comme ça et qu'on n'a pas de chez soi. C'est un peu compliqué pour faire sa mission. Mais L'efficacité est certaine, puisqu'on a eu quand même... La Guyane était en train de se voir submerger, les hôpitaux étaient en train de se voir submerger, et la situation a été maîtrisée. On a maintenant... Le couvre-feu a été petit à petit levé, il en reste un tout petit peu au plein milieu de la nuit, mais la situation de la Guyane est bien meilleure que la situation qu'on a en France métropolitaine.
Donc, le couvre-feu permet... pourrait permettre de stopper la flambée des cas, mais...
De la ralentir.
Quels sont, à vos yeux, alors vous avez cité le métro tout à l'heure, mais quels sont, à vos yeux, les angles morts des décisions, des annonces qui ont été faites hier par le président de la République ?
Moi, je vois effectivement les entreprises, le repas de midi, les pauses dans les entreprises... Ouais. C'est plus compliqué, c'est du sur-mesure, c'est de la dentelle... Mais il faudrait quand même faire un effort plus important pour trouver la meilleure solution. On le voit, l'hôpital est aussi une entreprise et il y a encore des choses à faire pour limiter les contaminations pendant les moments de détente ou pendant les moments des repas. Il y a certainement quelque chose à travailler de ce côté-là. Mais je voudrais... Et puis, bon, les transports, en gros, c'est les gros... là où les gens viennent travailler ou étudier, le moment de détente... Les transports sont les grands vecteurs de l'épidémie. Ce que je voudrais dire, c'est que l'objectif, ce n'est pas forcément de tous les neutraliser en même temps, parce que c'est compliqué à faire, ça bloque beaucoup de choses. L'objectif, c'est de, au lieu d'avoir 20% de cas supplémentaires chaque semaine, qui nous fait une belle courbe, effectivement, qui devient exponentielle, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur, et simplement, ça dure depuis plus de 3 mois. Donc ça fait 15 semaines que ça augmente, 20% de plus chaque semaine. Au lieu d'avoir 20% de plus chaque semaine, si on avait simplement une réduction d'un quart, on serait plus qu'à 0,9, donc un taux de reproduction inférieur à 1, donc et à ce moment-là, l'épidémie irait vers la descente, sans avoir contrôlé la totalité des modes de transmission.
D'accord.
Et puis, en descendant... on redonnera de l'efficacité au contact tracking, qui est impossible à faire quand il y a 20 000 personnes à contacter tous les jours, trouver leurs contacts, etc. Oui. Si on veut le faire bien, si on veut le faire plutôt en face-à-face qu'au téléphone, si on veut gagner en efficacité, il faut que le nombre diminue. Donc si on arrive à faire diminuer le nombre et ensuite à reprendre la main sur l'épidémie, là on peut y arriver.
C'est l'objectif qui a été fixé hier soir par le président de la République, revenir à 3 000, hein, c'est le chiffre qu'il a donné, 3 000 contaminations
par jour. Là, on pourrait être beaucoup plus facilement
et effectivement,
intervenir.
Et les spécialistes disent qu'au-dessus de 5 000, ça commence à devenir très compliqué. Vous-même,
d'accord,
d'ailleurs, vous avez...
C'est au doigt mouillé. Hein.
Oui,
il n'y a pas d'études qui disent c'est à 3 000 ou c'est à 5 000 ou c'est à 6 000.
Mais
là, on voit bien que c'est à 20 000, ça devient non faisable.
Mais il y a beaucoup de doigts mouillés dans cette crise.
Oui.
Vous-même, vous avez été infecté, professeur Pierroux, et vous n'avez pas du tout été tracé. Hein.
Je n'ai pas été tracé, non. J'ai été infecté en mission. Donc,
en Guyane.
C'est un peu plus sexy quand même. C'était en me déplaçant en hélicoptère vers l'intérieur de la Guyane. Donc c'est quand même fait un peu plus aventure. Mais donc en contact avec une personne qui était en train d'incuber. En rentrant, j'étais négatif. Quelques jours après, je me suis fait retester à la Pitié-Salpêtrière. Et parce que les tests avaient été faits à la Pitié-Salpêtrière, l'assurance maladie a pensé que j'étais hospitalisé. Donc, s'est dit que c'était peut-être pas la peine de m'isoler ou je sais pas. Donc, ils se sont pas intéressés. C'est dommage. J'aurais vraiment aimé voir comment les choses se faisaient.
En quelques mots, professeur Pierroux, quelle est la situation à la Pitié-Salpêtrière ? Mais je voudrais surtout que vous répondiez à ceux qui disent ou qui pensent que la situation actuelle est née des insuffisances du système de santé, qu'en ouvrant un nombre plus grand, voire infini, de lits de réanimation avec le personnel soignant qui va avec, on aurait pu régler le problème sans les mesures de contrainte.
En tout cas, pas dans les derniers mois, parce que créer des lits de réanimation, c'est aussi avoir des réanimateurs et des infirmières de réanimation.
Il en faut 6 par lit, hein, j'ai lu, hein, c'est ça ?
Oui. Je ne saurais pas dire, ça me paraît beaucoup, 6 par lit, mais on y arrive avec 3, mais c'est pas, la question n'est pas là. La question est, on ne forme pas une infirmière de réanimation et un réanimateur en l'espace de quelques mois. Donc peut-être que si on avait eu 2 fois plus de monde pour soigner dans les hôpitaux, on aurait pu accueillir 2 fois plus de monde lors d'une pandémie. mais c'est pas le enfin, on ne peut pas régler ça en l'espace de quelques mois. Donc de toute façon, on est contraint avec le nombre de personnes qui sont capables de soigner les, des patients qui ont des formes graves de la Covid. Et ce nombre-là nous limite dans le, la capacité d'accueil des hôpitaux.
Et par ailleurs, une capacité plus grande, c'est plus de malades et plus de séquelles éventuelles, parce que cette maladie
n'est pas... Et par ailleurs,
on est
en train de franchir la barre des 100 décès par jour. Hein, oui. C'est la première fois qu'on l'a refranchi depuis le mois d'avril. C'est quelque chose qui apparaît avec du retard. Donc la note, quand même, en termes de décès, risque d'être importante, en termes de séquelles, etc. Donc c'est pas raisonnable de se dire, bon, ben, on va, tant qu'on peut accueillir, on accueille, et puis tant pis pour les décès.
Merci beaucoup, professeur Renaud Pierre-Roux. La vague, l'épidémie vue du terrain à CNRS Éditions, c'est un témoignage de... comment dire, de première main et en première ligne sur l'épidémie de ces derniers mois, en tout cas ce qu'on a appelé la première vague. On est maintenant dans la deuxième. Merci de nous avoir éclairés.
Merci beaucoup.